Hardigan. Hardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. Celui qui chuchotait dans le noir. 1. Rappelez-vous bien qu'en fin de compte, je n'assistais à rien de vraiment horrifique. Mettre sur le seul compte d'un choc mental la conclusion à laquelle je parvins, cette ultime révélation qui me fit fuir la ferme isolée d'Aclay pour traverser dans une automobile empruntée, en pleine nuit, les sauvages collines du Vermont, reviendrait à ne pas tenir compte des faits les plus concrets auxquels j'ai dû faire face lors de ma dernière expérience. En dépit des choses bouleversantes que j'ai vues et entendues, en dépit de la marque indéniablement ineffaçable qu'elles ont laissée sur moi, je ne peux, même aujourd'hui, démontrer si mon hideuse hypothèse est vraie ou fausse. Après tout, la disparition d'Aclay ne prouve rien. On n'a rien découvert d'insolite chez lui, malgré les impacts de balles à l'extérieur et à l'intérieur de sa demeure. On l'aurait cru sorti pour une simple promenade dans la montagne, et jamais revenu. Il n'y avait même pas l'indice révélant la présence d'un invité, ni aucune trace de ces abominables cylindres et machines entreposées dans son bureau. Qu'il ait eu atrocement peur des nombreuses collines verdoyantes et du ruissellement sans fin des cours d'eau de sa région natale n'est pas davantage significatif, car des milliers de personnes éprouvent elles aussi ce genre de phobie maladive. En outre, son excentricité pourrait suffire à expliquer ses actions et perceptions étranges vers la fin. En ce qui me concerne, l'affaire débuta avec les inondations historiques, d'un niveau jamais atteint, que connut le Vermont le 3 novembre 1927. J'étais alors, comme je le suis encore à présent, enseignant en littérature à l'université miskatonique d'Arkham, dans le Massachusetts, ainsi que fervent amateur du folklore de la Nouvelle-Angleterre. Peu de temps après cette catastrophe, parmi les divers articles de presse relatant la souffrance de ceux qui avaient tout perdu et les secours mis en œuvre, apparurent de curieux récits faisant état de choses qu'on aurait vues dériver sur certaines rivières en crue. À tel point que beaucoup de mes amis se lancèrent dans des débats insolites et firent appel à mes connaissances pour les éclairer sur le sujet. Flatté qu'on prenne autant au sérieux mes études sur le folklore local, je m'efforçais d'atténuer la portée de ces vagues contes délirants qui me paraissaient sans conteste issus de vieilles superstitions rurales. Cela m'amusa de constater que plusieurs personnes pourtant éduquées tenaient à discerner sous les rumeurs un fond de vérité obscure, distordu. Ces histoires sur lesquelles on attira mon attention provenaient essentiellement de coupures de presse. Toutefois, l'une d'elles avait pour origine un récit oral rapporté à un de mes amis dans une lettre de sa mère, habitante de Hardwich, dans le Vermont. Le genre de choses décrites était en gros le même chaque fois, mais trois cours d'eau distincts semblaient concernés. La rivière Winooski, non loin de Montpellier, celle de l'ouest dans le comté de Windham, en amont de Newfane, et la Passumpsic, dans le comté de Caledonia, au-dessus de Lindonville. Bien sûr, beaucoup d'articles isolés mentionnaient d'autres cours d'eau secondaires, mais après analyse, tout semblait se réduire à ces trois rivières principales. Les habitants du cru racontaient immanquablement avoir aperçu des corps flottants très bizarres et perturbants au milieu du courant qui se déversait depuis les hauteurs de collines peu fréquentées. On tendait avec insistance à relier ces observations à un cycle de légendes occultes à moitié oubliées que les vieilles gens ressuscitèrent pour l'occasion. Les témoins croyaient avoir vu des créatures comme ils n'en avaient jamais observé auparavant. Bien sûr, en cette période tragique, les cadavres entraînés par les cours d'eau ne manquaient pas, mais ceux qui décrivaient les formes étranges en question avaient la certitude qu'elles n'étaient pas humaines, malgré quelques ressemblances superficielles comme la taille et la silhouette générale. Il ne s'agissait pas non plus, assurait-il, d'un animal connu dans le Vermont.